Chapitre 38. Violette Tempest était partie depuis près d'un an, et pour les quelques vieux serviteurs restés à l'abbaye, comme pour les habitants du village qui l'avaient connue et aimée, c'était comme si la lumière du soleil se fût éteinte. Il en était de même après la mort du baronnet, quand Miss et sa maman voyageaient, se répétaient-ils l'un à l'autre. On dirait que le monde est vide. Mrs. Winstanley et son mari vivaient comme il convient à des gens de quelques prétentions mondaines et d'un certain rang. Ils se voyaient rarement, mais on les voyait toujours ensemble, chaque fois que les occasions de bienséance l'exigeaient. Le service du matin dans la petite église de Beechdale n'eût pas paru complet sans ces deux personnages. Mrs. Winstanley, avec sa beauté fanée, sa robe de soie à longues traînes et son chapeau léger comme un souffle aérien. Le capitaine, tiré à quatre épingles, avec sa taille svelte, son teint bronzé et sa moustache noire. Pour tout le monde, ils étaient le modèle de la félicité conjugale. Si la beauté languissante de Mrs. Winstanley avait plus perdu de sa fraîcheur dans cette dernière année que dans les 10 précédentes, si sa démarche était devenue plus lente et plus lourde, sa main blanche plus transparente, il n'y avait là personne qui la regardât d'un œil assez aimant pour s'apercevoir de ces changements. Cette affectation de faiblesse maladive augmente chez Mrs. Winstanley, dit un jour Mrs. Scobble à son mari. C'est malheureux, je crois que le capitaine n'y est pas étranger. Elle n'a jamais paru bien depuis le départ de Violette, répondit le pasteur. Il est si peu naturel qu'une fille et une mère soient séparées. Je ne sais pas, mon ami. La Bible dit « l'homme doit quitter père et mère pour s'attacher à sa femme ». La pauvre Violette était un ferment de discorde dans cette maison. Maintenant qu'elle n'est plus là, Mrs. Winstanley doit se sentir beaucoup plus heureuse. « Je ne saurais dire ce qu'elle en pense, » répondit le vicaire embarrassé. « Mais elle ne me paraît pas aussi heureuse qu'à l'époque où sa fille était près d'elle. » « Elle s'écoute aussi beaucoup trop !» se récria la pétulante Mrs. Scobble, qui jamais ne s'était écoutée de sa vie. « Quand elle a mal à la tête, elle se met au lit et ferme les volets, comme si elle était mourante. « Il n'est pas étonnant qu'elle soit pâle et étiolée, » dit le vicaire. « Elle dépérit faute de lumière. « Mais je crois, ma chère Fanny, que c'est la lumière morale qui manque. « Vous en penserez ce que vous voudrez. » Mrs. Scobble était dans le vrai. Pamela Winstanley était une femme malheureuse, d'autant plus malheureuse qu'elle n'avait pas même un sujet tangible de plainte. Sa fille, il est vrai, était exilée, mais exilée du plein consentement de sa mère. Ses prodigalités personnelles avaient été réfrénées, mais il lui fallait reconnaître que le frein était légitime, nécessaire, et qu'il lui avait été imposé dans l'intérêt de son bien-être à venir. Son mari était plein d'attentions à son égard, et certes, elle ne pouvait pas lui en vouloir de ce qu'il paraissait rajeunir tous les ans sous l'influence d'une vie saine et régulière, alors que, sous sa figure blême, le souci accentuait de jour en jour des rides de plus en plus profondes, défiant la magie elle-même de réparer du temps l'irréparable outrage. « Je deviens une vieille femme, » soupirait Mrs. Winstanley. « Il est heureux que je ne sois pas sans ressources contre l'âge et la solitude. » Ces ressources, un goût d'ailleurs assez tiède pour les idylles de la poésie moderne, pour les plus faibles poèmes de Tennyson, pour les œuvres d'Adélaïde Proctor et de Jean Ingelow. Un certain talent pour la broderie, si l'on peut appeler talent cette adresse routinière, qui consiste à orner de feuilles et de fleurs de convention des serviettes de cuisine, et cette dextérité laborieuse qui transforme en point de Venise, ou, soi-disant telle, quelques tissus de Nottingham plus ou moins préparés. Dans les derniers temps, elle s'était mise en tête de ne plus aller dans le monde et de ne plus recevoir, sauf quelques amis qui l'aimaient assez ou que l'emploi de leur temps rendait assez perplexes pour qu'il leur fût agréable de ne pas laisser échapper une occasion de passer une heure à bavarder en prenant le thé. Elle avait décidément adopté le rôle d'invalide, dont elle avait d'ailleurs toujours eu une tendance à affecter les airs. « Je ne suis réellement pas assez bien portante pour aller dîner en ville, Conrad, » disait-elle, quand son mari insistait pour qu'elle acceptât quelque invitation, insistance de pure forme et d'une politesse insouciante, qui signifiait très clairement « Il m'est parfaitement indifférent que vous veniez avec moi ou que vous restiez à la maison. » « Mais, ma chère Pamela, un peu de gaieté vous remonterait. »« Non, Conrad. Il me serait désagréable d'aller chez Lady Helen Gowan avec une toilette de la saison dernière. Et je suis complètement d'avis, comme vous, que je ne dois plus dépenser un sou chez Théodore. Pourquoi ne pas mettre votre robe de velours noir ? C'est un pis-aller trop visible. Je n'ai pas assez de diamants pour porter du velours noir. » « Mais vos vieilles dentelles feraient très bien sur du velours noir. Elles sont admirables. »« Mon cher Conrad, Lady Helen Gowan les connaît par cœur, et elle ne manque jamais de m'en faire compliment, non sans une malicieuse arrière-pensée. »« C'est une façon de me rappeler qu'elle les a vues souvent. »« Oh, chère Mrs. Winstanley, ce sont vos vieilles dentelles, n'est-ce pas ? Elles sont charmantes. »« Je la connais, allez. » « Non, Conrad, je n'irai pas chez elle avec une robe de l'an passé, ni même en velours noir rehaussé de vieilles dentelles. Du réchauffé que tout cela. J'espère me respecter moi-même assez pour me préserver toujours d'une humiliation de ce genre. En outre, je ne suis pas assez bien portante pour aller dans le monde. Vous pouvez ne pas me croire, Conrad, mais je suis réellement malade. » Le capitaine prenait un air malheureux, et murmurait quelques paroles de sympathie. Mais il ne croyait pas à la réalité des souffrances de sa femme. Depuis leur mariage, elle avait toujours plus ou moins joué la malade, et il s'y était habitué comme à un trait de caractère, une manie aussi inoffensive que sa passion pour le thé fort, et moins coûteuse que ses fantaisies de toilette. Si, à dîner, elle mangeait moins qu'un oiseau, il en concluait qu'elle avait perdu l'appétit pour s'être bourrée de biscuits et de gâteaux à son goûter de 5 heures. Si elle refusait tous les dîners, toutes les invitations, c'est qu'elle n'aurait voulu, pour rien au monde, être éclipsée par quelque autre femme mieux mise qu'elle. C'était pour cela et rien que pour cela. Les autres raisons qu'elle invoquait n'étaient que des prétextes, langueur, faiblesse, migraine, fadaise que tout cela. Au fond, elle ne lui avait jamais pardonné la clôture du compte de Madame Théodore. Et pourtant, la maladie était là. Elle poursuivait son œuvre, bientôt visible pour tout le monde. Mais le capitaine semblait se refuser à l'évidence. Il laissait cette insidieuse et perfide ennemie prendre pied à son foyer, sans se douter qu'elle se préparait à le rejeter brusquement loin du domaine où il se croyait en sûreté, confiant qu'il était dans sa sagacité et se complaisant dans l'approbation vaniteuse de sa prévoyance. Une fois par semaine, et toutes les semaines sans faute, arrivait une lettre de Violette à sa mère. Le plus souvent, les lettres étaient courtes. La pauvre jeune fille, que pouvait-elle trouver à dire dans son île déserte ? Mais toujours, les lettres étaient affectueuses et tendres. Et elles apportaient un peu de réconfort au cœur endolori de la mère. Mrs. Winstanley n'oubliait jamais de répondre, et sa lettre pour Jersey était l'événement capital de chaque semaine. L'éloignement semblait avoir décuplé son affection pour sa fille. Et pendant les causeries dont le thé de l'après-midi était le prétexte, il n'était futilité qui ne lui suggérât cette réflexion. « Voilà quelque chose que je raconterai à Violette. »